France 2, Françoise Gaillard, intitulé Petit éloge de l'église.
Alors le titre a changé, et puis ensuite je suis extrêmement gênée parce qu'au fond, ce n'est que un délayage des propos extrêmement pertinents que tu viens de tenir sur la bêtise, puisque j'avais conçu, ces quelques propos comme une sorte d'introduction très générale et très vague. Je dis que le titre a changé car en me replongeant un peu dans Flaubert, qui ne me quitte pas non plus, en me replongeant du point de vue de la bêtise, j'ai changé d'idée et j'ai décidé de donner donc pour titre à ce que je vais dire « Éloge de la simplicité ». Alors je commencerai par une phrase mise en exergue. Flaubert a découvert la bêtise. J'ose dire que c'est là la plus grande découverte d'un siècle si fier de sa raison scientifique. Il s'agit d'une phrase de Milan Kundera, extraite de l'art du roman. Pour ma part, je dois dire que j'apporterai quelques correctifs à ce propos de Milan Kundera, et je préférerais dire, en un siècle si fier de sa raison, et là-dessus je suis d'accord avec Milan Kundera, Flaubert a découvert la bêtise de la raison. Il a découvert la bêtise de la raison, et ça, nous reviendrons d'ailleurs à cette question du rapport aux Lumières, hein. Il a découvert la bêtise de la raison en même temps qu'en un siècle de démocratie naissante, il en découvrait la dangerosité. Et c'est sur ce point peut-être que j'insisterai. Car en effet, comme on disait autrefois, à l'époque de l'ère du soupçon, ce n'est pas un hasard si, c'est une formule que, avec entêtement, un entêtement peut-être bête, je continue à conserver, même si j'aurais accepté de serrer la main d'Arthur Koestler, tant héroïque du communisme. Donc ce n'est pas hasard si le 19e siècle, donc, qui est aussi celui de la découverte du pouvoir social et politique de l'opinion, comme vous le savez, est le siècle inaugural de l'intérêt porté à la bêtise. Et là, vous le savez aussi bien que moi, donc on peut simplement passer en revue tous les écrivains, vous en connaissez un très grand nombre, les écrivains ou les dessinateurs, entre autres Daumier, etc., qui la stigmatisent. Alors, évidemment, la cible principale, c'est le bourgeois, et tu l'as évoqué, le bourgeois plein de suffisance, et d'autosuffisance, et là au sens presque philosophique du terme, j'y reviendrai, et d'autosuffisance comme sa raison, dite, et Alain Roger en parle, mais je vous dirai pourquoi, et donc d'autosuffisance comme sa raison dite suffisante dont il est si fier. Ce bourgeois qui croit au progrès, même peut-être au scientisme, on peut penser à Homais, et qui vénère la propriété, et là je vous renvoie à l'éducation sentimentale, ce passage extraordinaire dans lequel Flaubert dit que la propriété, n'est-ce pas, était devenue vénérée presque à l'égal de Dieu. Il y a en effet tout au long, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, une liaison évidente bourgeoisie-bêtise, ou plutôt bourgeois. Bêtise, plus que bourgeoisie, bêtise. Les liens, pour parler comme nos ordinateurs, les liens seraient le mauvais goût, l'égoïsme qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la méchanceté, les préjugés, l'étroitesse d'esprit, toute qualité qui s'incarne dans le boutiquier, terme qui désigne moins une profession, comme vous le savez, qu'une mentalité. Balzac disait pour sa part l'épicier, mais en son temps monarchiste, la bêtise est encore un travers individuel. Ce n'est pas encore, comme ce le sera, comme on le concevra dans la deuxième moitié du XIXe siècle un fléau ou une menace sociale. Donc, la chose est différente pour Flaubert, pour Sartre d'ailleurs, qui sur ce point continue la réflexion de Flaubert, qui, tous les deux, sachant à quel point cette bêtise est objectivement malfaisante, appelle, en tout cas Sartre, c'est l'appellation qu'il donnera en découvrant ce côté justement malfaisant de la bêtise, hein, vous savez que Sartre ne s'appelle plus des boutiquiers, mais il l'appelle ces bourgeois contents d'eux qui vivent dans la bonne conscience de leur bon droit, les salauds. Et ces salauds, et reportez-vous à la nausée, ce sont ces bourgeois pour lesquels le monde est parfaitement en ordre, un monde sur lequel règne justement leur raison suffisante, un monde en ordre où le jardin public ferme à une certaine heure en été et à une autre l'hiver, où tous les objets plongés dans le vide tombent à la même vitesse. Ce monde qui est à eux, hein, leur monde. La visite au musée de Bouville, dont je vais vous lire un extrait, est un passage tout à fait digne, je dirais, de Flaubert. Vous savez que Roquentin se rend au musée de Bouville, et là, il va découvrir les portraits de tous les notables de la ville, ces notables, évidemment, dont les portraits ont été peints à la fin du XIXe siècle, et tout particulièrement Parotin. Cet homme avait la simplicité d'une idée. Vous trouverez là, je vous dis, cette simplicité d'une idée qui caractérise d'ailleurs aussi la bêtise, hein. Ce ne sont pas les idées simples. L'idée simple, nous verrons, n'est pas de l'ordre de la bêtise, mais avoir la simplicité d'une idée, c'est-à-dire au fond s'en tenir à une idée, sera caractéristique de la bêtise. Il ne restait plus en lui que des os, des chairs mortes et le droit pur. Un vrai cas de possession, pensais-je. Quand le droit s'est emparé d'un homme, il n'est pas d'exorcisme qui puisse le chasser. Jean Parotin avait consacré toute sa vie à penser son droit, rien d'autre. À la place du léger mal de tête que je sentais naître, comme à chaque fois que je visite un musée, il eut senti à ses tempes le droit douloureux d'être soigné. Il ne fallait point qu'on le fît trop penser, qu'on attira son attention sur des réalités déplaisantes, sur sa mort possible, sur les souffrances d'autrui. Sans doute à son lit de mort, à cette heure où l'on est convenu depuis Socrate de prononcer quelques paroles élevées, avait-il dit à sa femme, comme un de mes oncles à la sienne, qu'il avait veillé 12 nuits, « Toi, Thérèse, je ne te remercie pas, tu n'as fait que ton devoir. » Quand un homme en arrive là, il faut lui tirer son chapeau. Et en lisant la nausée, je me suis souvent plus à imaginer comment aurait été capable d'un tel grand mot sur son lit de mort. Alors, cela vient d'être rappelé par Anne. Le XVIIe siècle, et c'est là où je serais un petit peu en désaccord avec Golzang, mais je vous dirai pourquoi. Le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, du moins en sa première moitié, s'occupent fort peu de la bêtise. Il ne s'intéresse au fond qu'à un autre péché social qui, à la différence de la bêtise, entraîne moins de dommages collatéraux, c'est la sottise. Alors, le sot est quelque chose de tout à fait différent. Le sot, c'est le lourdeau. C'est l'homme sans agilité d'esprit, c'est celui qui détonne dans les salons, c'est le contraire de l'habile homme de cour, c'est le contraire absolu du bel esprit. Et on peut penser, parce que ça a été parfaitement illustré par un film, Ridicule, hein, celui qui vient de sa province et qui n'a justement pas ses usages du monde et cette gymnastique de l'esprit. D'une certaine manière, je dirais que c'est Rousseau et son esprit de l'escalier, qu'il confesse, contre Voltaire, l'homme de la propos si prisé dans le monde. Et là, souvenez-vous de ce que disait Rousseau, parlant de lui-même, « S'il faut parler, je ne sais que dire, si l'on me regarde, je suis décontenancé. » Or justement, la bêtise, la vraie bêtise, celle justement des hommes ou des prud'hommes, des messieurs prud'hommes, n'est jamais décontenancée. Je cite encore Rousseau, « Je suis emporté, mais stupide, je fais d'excellents impromptus à loisir, mais sur le temps, je n'ai jamais rien fait ni dit qui ne vaille, je ferai une jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. » Et c'est là où on trouve cette phrase bien connue. « Quand je lus le trait du duc de Savoie qui se retourna faisant route pour crier « À votre gorge, marchand de Paris », je me dis, me voilà. Évidemment, cet exemple qui plaît à Rousseau est l'exemple même de ce que l'on appelle l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire de la répartie qui vous vient, bien sûr, trop tard. Eh bien, ça, c'est la figure du sot. C'est de celui-là que l'on s'intéresse essentiellement donc au XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe. Il est vrai que à l'âge des Lumières, on va s'intéresser à tonner contre, comme dirait Flaubert, à l'obscurantisme. Mais l'obscurantisme relève plutôt de l'erreur que de la bêtise, et ce qui va être stigmatisé, c'est une forme de crédulité. Au XIXe siècle, la bêtise va au contraire fortement intéressée. Elle va fortement intéresser car avec l'entrée dans l'âge des foules et voir psychologues comme Lebon et bien d'autres, des sociologues comme Tarde qui travaillera sur l'imitation, parce que justement avec donc cette entrée dans l'âge des foules, l'âge qui deviendra bientôt celui des masses, la bêtise devient une affaire sociale. Il ne s'agit plus de caractère, le sot, de comportement mondain, sottise mondaine, mais véritablement quelque chose qui se manifeste dans la société et la menace. La bêtise devient aussi, et en même temps, une affaire politique avec la démocratie naissante et le suffrage universel, entre autres. Reportez-vous à l'éducation sentimentale ou à Bouvard et Pécuchet qui en parlent très bien et au conte cruel de Villiers de l'Isle-Adam, Vox Populi, que je me permettrai parce qu'il est très court de vous lire en guise de conclusion. C'est un conte dédié à Le Comte de Lille qui a été rédigé en 1880 et dont toute l'ironie porte évidemment sur l'adage « Vox Populi, Vox Dei » qui se révèle être peut-être la plus grande des bêtises. Donc, on comprend que l'intérêt porté à la bêtise au XIXe siècle vient d'une peur et d'une haine de la bêtise des foules et des masses facile à manipuler, comme le montrera le plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte, suivi du coup d'État du 3 décembre 1851. Événement, et vous le savez aussi bien que moi, qui ne tirèrent à Pécuchet que ses propos désabusés, mais non exemple de justesse, et je cite ici Pécuchet, « Puisque les bourgeois sont féroces, les ouvriers jaloux », tout ça d'ailleurs, on le retrouverait la même chose dans l'éducation sentimentale, mais formulée différemment. Puisque les bourgeois sont féroces, les ouvriers jaloux, les prêtres serviles, et que le peuple enfin accepte tous les tyrans, pourvu qu'on lui laisse le museau dans sa gamelle, Napoléon a bien fait qu'il le bâillonne, le foule et l'extermine. Ce ne sera jamais trop pour sa haine du droit, sa lâcheté, son ineptie, son aveuglement. Alors, on pourrait faire tout un florilège des déplorations à l'époque de la bêtise des gens. Je donne deux, trois exemples. Les Goncourt, par exemple. Il faut entendre les gens des groupes pour avoir une idée de la bêtise incommensurable du peuple le plus intelligent de la Terre. Confirmation serait apportée dans l'éducation sentimentale, notamment au chapitre où Frédéric fréquente tour à tour différents clubs de réflexion politique, et notamment le club évidemment de l'intelligence, qui se révélera être peut-être le plus bête de tous. Flaubert aussi, il y a un fond de bêtise dans l'humanité. Quand le peuple ne croira plus à l'Immaculée Conception, il croira aux tables tournantes. Alors je vous dis, j'arrête ce florilège parce que la litanie serait presque sans fin. Il faut aussi évidemment lire toute la correspondance de Flaubert. On verrait que s'y exprime non seulement la haine de la bêtise, mais aussi la peur de la contagion par la bêtise. Hein, ce fameux bourgeois en nous que, dont tu as parlé tout à l'heure. Mais on pourrait donner l'exemple de Amiel qui, dans son journal, écrit « Je crains d'être un imbécile ». Et c'est une proposition qui se retrouve très fréquemment, formules diverses, sous la plume des écrivains dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, Mouzil, dont je vais dire un mot dans un instant, écrit « Nous sommes tous bêtes à l'occasion ». Et j'en viens effectivement à Mouzil. Dans une conférence extrêmement intéressante qu'il a prononcée à Vienne en mars 1937 et qui avait pour titre « De la bêtise », Mouzil commença son propos par cette question « Qu'est-ce au juste que la bêtise ?» Et je crois que c'est cette question que nous devons faire nôtre. D'ailleurs, ce sera peut-être celle qui reviendra tout au long de ce séminaire, car cette question fut aussi celle que se posa Flaubert et, comme je vous le disais, bien d'autres écrivains au même moment. Cette question difficile, c'est celle de la définition de la bêtise. D'ailleurs, la bêtise est-elle définissable ? Ce serait en fait trop simple, parce qu'on pourrait la désigner, la localiser, la circonscrire. En fait, la question de savoir si elle est définissable se pose car, si on y regarde de près, on s'aperçoit que la bêtise ne se révèle qu'en acte. Soit en acte illocutoire, lorsque l'on profère une opinion dont on pourra dire, mais on se demandera ce que cela signifie que de dire, ou quelles sont les conditions de possibilité qui nous permettent de dire que cette opinion est bête. Donc, elle ne se révèle qu'en actes illocutoires ou en actes sociaux ou politiques, comme par exemple lors du suffrage universel qui va faire arriver au pouvoir le prince président. Et au fond, elle ne se définit que dans ses champs d'application. Mais faisons un instant semblant de croire que la bêtise serait définissable. Et posons-nous la question de Mouzil, qu'est-ce au juste que la bêtise ? Il est évident que dans cette phrase, l'expression importante, c'est « au juste ». Car Mouzil, qui dit avoir, en sa qualité d'écrivain, rencontré plus d'une fois la bêtise, exige, comme vous l'entendez, une définition claire et précise, et en disant « au juste », il refuse de se contenter de quelques antonymes ou pseudo-synonymes. Mais Mouzil, et ça peut-être le côté décevant de sa conférence, c'est qu'il ne fournit aucune définition. Alors, force est donc d'avoir recours au dictionnaire. Même si on sait à l'avance que ce sera décevant en raison même de ce que je viens de vous dire, à savoir que la bêtise ne se révèle qu'en acte. Alors, comme chaque fois qu'il s'agit du XIXe siècle, le dictionnaire qui s'impose est le Grand Larousse du XIXe siècle, je suis allé évidemment regarder l'article « bêtise ». Alors, l'article « bêtise » est très court en définition. En revanche, il est prolixe en anecdotes et en histoires drôles qui mettent en scène la bêtise des héros. Côté définition, je lis, vous allez voir qu'on n'est pas très avancé, défaut d'intelligence, de jugement, de bon sens ou des notions les plus communes. Mais là, je m'arrête. Nous savons bien que la bêtise n'est pas synonyme d'inintelligence, terme qui désigne une déficience de l'entendement. On peut être intelligent, c'est-à-dire avoir un entendement qui fonctionne bien, et être bête. Nous connaissons de très nombreux exemples. D'ailleurs, le club de l'intelligence le prouve à l'évidence. Ça s'est prouvé notamment dans les romans de Flaubert. De même que nous savons bien que la bêtise n'est pas un défaut de bon sens, nous savons aussi qu'elle n'est pas une ignorance des notions les plus communes. Là encore, voir les romans de Flaubert qui nous montrent que justement la bêtise, c'est d'avoir son esprit plein justement de ces références communes, de ces lieux communs, voir le dictionnaire des idées reçues. Bien au contraire, tout lecteur de Flaubert sait que ce qui caractérise la bêtise, c'est justement une tranquille assurance quant aux vertus du bon sens, et pas du tout son absence, hein, tranquille assurance quant aux vertus du bon sens et à la valeur de vérité de ces mêmes notions communes, alias idées reçues. On peut penser à Monsieur Hommet et à son double caricatural que tu as mentionné, le héros d'Henri Meunier, Monsieur Prudhomme. D'ailleurs, cette bêtise-là vient paradoxalement d'une confiance étroite dans les Lumières et dans la raison qui est au principe même de l'idéologie des Lumières. Alors, ce que je voudrais esquisser ici à grands traits, et peut-être que je m'avance, je dirais, d'une manière très imprudente, et les flaubertiens, qui sont plus compétents que moi, me corrigeront, c'est le portrait d'un Flaubert, au fond, indulgent à la simplicité, mais impitoyable envers la bêtise. Encore faut-il commencer par distinguer entre simplicité et bêtise. Alors, je vais vous donner des exemples. Les nombreuses historiettes, qu'à défaut de pouvoir fournir une définition claire de la bêtise, le grand Larousse raconte, pour égayer d'ailleurs et allonger son article, pauvre, et qui ne témoigne en fait que d'une grande confusion entre bêtise, naïveté, crédulité, simplicité et idiotie. Or, la différence est essentielle si l'on veut comprendre la rage de Flaubert contre la bêtise. Alors là aussi, les citations sont tellement nombreuses que je n'en retiens que deux. Au moment de la rédaction de Bouvard et Pécuchet, « Je connais la bêtise, je l'ai étudiée, c'est là l'ennemi, et même il n'y a pas d'autre ennemi, et je m'acharne dessus dans la mesure de mes moyens. » J'abrège la citation. Ou, dans une lettre à Louis Bouillet, « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à la bouche comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle comme on dort de bousée de vache les pagodes indiennes. » Réfléchirez à la fois l'image assez étonnante. Mais alors, voilà le petit exemple sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un instant et que l'on médite pour essayer de comprendre quelle différence j'établis entre la bêtise et la simplicité. Alors, le grand Larousse rapporte l'histoire, drôle ou vraie, drôle et vrai, peu importe, suivante. Monsieur X envoie une servante acheter des allumettes. Elles ne valaient rien. aller en chercher d'autres. La servante revient. Sont-elles bonnes, celles-là? Ah, monsieur, j'en suis sûre, je les ai toutes essayées. Alors, évidemment, on peut imaginer que le bon bourgeois rit. Sauf peut-être, d'ailleurs, le bon bourgeois auquel on raconte, évidemment, cette histoire. Sauf peut-être le maître qui, du coup, se trouve privé de feu et de pipe. Et on peut imaginer qu'il se dit, faut-il être bête tout de même? Et pourtant, la servante n'est pas bête. Elle est simple. Elle est simple comme Félicité, la servante au grand cœur, laquelle n'est pas bête lorsqu'elle cherche sur la carte de Cuba la maison où se trouve son neveu Victor. Car une carte vraiment fidèle devrait reproduire tous les détails du territoire. Le problème, comme le montre Borges dans le conte intitulé « De la rigueur scientifique », c'est qu'alors la carte se confondrait avec le territoire. C'est ce que les cartographes les plus savants de l'empereur de Chine finissent par découvrir dans le conte de Borges, auquel je faisais allusion. J'arrête l'histoire de la servante et j'y reviendrai pour introduire, pour continuer un tout petit peu sur cette simplicité de Félicité, donc qui cherche la maison de Victor sur la carte que lui montre Monsieur Bourret. Souvenez-vous du passage. Il s'agit de M. Bourret. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes, et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de Félicité. Et avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tache ovale un point noir imperceptible en ajoutant « voici ». Elle se pencha sur la carte, ce réseau de lignes colorées fatiguait sa vue sans rien lui apprendre, et Bourret, l'invitant à dire ce qui l'embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourret leva les bras, rit énormément, une candeur pareille excitait sa joie. Alors, faisons retour maintenant à l'histoire rapportée dans l'article Bêtise du Grand Larousse, la servante qui a essayé toutes les allumettes. Je vous ai dit que cette servante, au fond, n'est pas bête, même si elle fait bien rire le bourgeois. Elle n'est pas bête, car elle a appris à se méfier de la parole marchande, qui est déjà une attitude quasi critique. C'est déjà le début d'une conscience critique. Deuxièmement, elle a placé sa confiance, et donc c'est déjà le début, je dirais presque, d'un esprit des Lumières, contre la crédulité, elle a placé sa confiance dans la vérification et l'expérimentation, ce qui est déjà une démarche quasi scientifique. Pourquoi est-ce que j'ai inversé mes pages, moi? Ou j'en ai oublié une? Bizarre, oui. Troisièmement, elle n'induit pas la bonne qualité de toutes les allumettes de la boîte à partir de celles qui se sont enflammées normalement. Ce en quoi elle a raison. Les allumettes, produits manufacturés, ne peuvent être traitées comme des faits physiques dont on peut énoncer les lois à partir d'un nombre fini d'expérimentations. Il est évident qu'il n'y a pas besoin de continuer indéfiniment à faire tomber corps dans le vide pour pouvoir énoncer la loi de la gravitation universelle. D'un moment, l'expérimentateur s'arrête et peut énoncer la loi. Mais les allumettes, qu'en savez-vous? Pas le savoir si vous n'avez pas tout essayé. Donc, le raisonnement de la servante, pour peu qu'on s'y arrête, est impeccable. Pas de meilleure méthode pour savoir si les allumettes sont bonnes que de les enflammer pour le vérifier. Évidemment, là où elle fait preuve d'une candeur qui confine à l'imbécilité, c'est en ne voyant pas que par ce raisonnement, par ailleurs juste, j'y insiste, elle a rendu toutes les allumettes inutilisables. Mais le maître ne peut, en bonne logique, rien lui reprocher, car il ne lui a pas demandé de rapporter des allumettes avec lesquelles on peut ou pourrait allumer le feu. Il lui a demandé de rapporter de bonnes allumettes. Souvenez-vous de la question qui lui a posé, sont-elles bonnes celles-ci? Et c'est bien à cette question et à celle-là seule, prise dans sa littéralité, qu'elle s'est mise en demeure de répondre de façon certaine. Une autre façon de répondre impertinente, au regard de l'humilité dont une servante doit faire preuve à l'égard de son maître, mais fort pertinente eu égard à la bêtise de la question, aurait été de dire « Monsieur, je ne suis pas dedans ». Mais ce serait alors, ou ça aurait été, tomber dans la phrase toute faite et faire preuve de peu d'autonomie à l'égard du langage, qui est une des caractéristiques de la bêtise. Or justement, elle ne tombe pas là-dedans, elle ne tombe pas dans le propos stéréotypé, le cliché, etc. Vous voyez bien que la bêtise tend plus d'un piège à qui veut jouer au malin. D'une certaine manière, est bête non la servante, mais le maître qui pose une telle question. En effet, comment la servante saurait-elle, sans les avoir essayées, si les allumettes sont bonnes ou non ? Le maître est bête de cette bêtise qui fait demander à un marchand si ce qu'il vend est bon. Bêtise qui n'est que la manifestation inverse d'une suspicion généralisée, tout aussi bête, et dont la forme énonciative pourrait être « marchands, tous des voleurs », ce qui pourrait être une entrée, n'est-ce pas, nouvelle, ajoutée au dictionnaire des idées reçues. Énoncé d'ailleurs qui se spécifierait selon les situations, par exemple, donc marchands tous bêtes, par exemple, ils vous vendent des allumettes de mauvaise qualité. On voit que c'est le maître ici, la servante est simple, mais c'est le maître qui est bête, bête de cette bêtise, qui se croit précisément à l'abri de la bêtise. La même erreur, parce qu'on va voir effectivement que ce qu'elle n'a pas intégré, c'est la finalité de l'action, le fait derrière. La question du maître, sont-elles bonnes ? Il y avait évidemment implicitement, sont-elles bonnes à faire du feu ou allumer la pipe ? Mais la même erreur due à la non-intégration de la finalité de l'action se retrouverait dans la fable de l'ours et du jardinier. Vous vous souvenez que le jardinier a demandé à l'ours de veiller à qu'il ne soit pas dérangé dans son sommeil par les mouches qui tournent autour de sa tête, et devant l'obstination d'une mouche qui s'entête à se poser sur le visage du jardinier, l'ours finira par prendre un grand pavé et écraser la mouche, mais évidemment en même temps la tête du jardinier. Là, les conséquences sont beaucoup plus catastrophiques que dans l'histoire des allumettes. Alors, je ne sais pas, voilà, j'espère que ça va comme ça. Un autre exemple de simplicité qui concerne cette fois le jeune Flaubert nous est donné par une anecdote véridique, moi j'ai des doutes, rapportée par Jean-Paul Sartre dans L'idiot de la famille, reprise par Pierre-Marc de Biasi au début de son essai Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre. C'est une anecdote à charge, que l'on connaît bien, à charge chez le philosophe Jean-Paul Sartre, qui y trouve la preuve de l'idiotie de l'enfant. Alors, vous connaissez tous les faits, l'enfant, et là je reprends l'anecdote dans, telle que tu la racontes, la rapportes dans ton livre, l'enfant, en tout cas c'est la nièce de Flaubert qui parle, était d'une nature tranquille, méditative et d'une naïveté dont il gardera des traces toute sa vie. Alors, c'est toujours la nièce de Flaubert qui parle. Ma grand-mère m'a raconté qu'il restait de longues heures un doigt dans sa bouche, absorbé, l'air presque bête. À 6 ans, un vieux domestique qu'on appelait Pierre, s'amusant de ses innocences, lui disait quand il l'importunait « Va voir à la cuisine si j'y suis ». Et l'enfant s'en allait interroger la cuisinière. Pierre m'a dit de venir voir s'il était là. Il ne comprenait pas qu'on voulût le tromper et devant les rires, restait rêveur. Et là, j'aurais envie de souligner « Entrevoyant un mystère ». Fin de citation. Est-ce que je reprends textuellement ce que tu as écrit. Alors, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses. Premièrement, cette dernière remarque, « Entrevoyant un mystère », suffit à elle seule à faire douter de la bêtise du jeune Flaubert. En fait, c'est le bourgeois rationaliste, qui ne s'élève pas au-delà de ses certitudes bien enracinées dans le sol d'une raison dont le principe premier, dit de non-contradiction, est ici étendu de l'identité, A et A. Je me rapporte évidemment au livre de Clément Rosset, qui est extrêmement il est plus que savoureux. Il y a toute une partie réellement philosophique. Bon, donc, je reviens à ce que je voulais dire. Ce principe, effectivement, de non-contradiction, dont vous savez tous, ça remonte à Aristote, qui veut que si A est A, il ne peut pas être B, ou alors A et B sont une seule et même chose, et, qui est le principe fondamental sur lequel repose notre raison occidentale, il est étendu donc à la question de la localisation. Or, c'est ce principe peut-être qui est bête, du moins borné. Ce principe qui veut que si un objet ou une personne, en l'occurrence Pierre, se trouve dans un lieu, cet objet ou cette personne ne peuvent se trouver dans un autre. Sauf comme question de A, qui est A, sauf à supposer que ces deux lieux n'en fassent qu'un. D'ailleurs, c'est le principe sur lequel repose la question de l'alibi, qui, à l'époque où les romans policiers style Agatha Christie étaient fondés justement sur la rationalité, la déduction rationnelle, était évidemment la preuve ultime, la véritable preuve, l'alibi comme vérité. Alors, j'ai envie de dire que c'est pour ça que entrevoyant un mystère m'intéresse. Bon, principe, effectivement, si Pierre est là, il ne peut pas être à la cuisine. C'est ça qui est bête. Parce que, et le merveilleux dans tout ça, et le rêve qui ignore, et Freud nous en a parlé, le principe de non-contradiction, et la poésie. Comme le dit Mousil, la bêtise naïve, moi ce que j'appelle la simplicité, est souvent une authentique artiste. D'ailleurs, à sa manière, Félicité en est une quand elle voit le Saint-Esprit dans son perroquet au plumage infiniment plus chatoyant que celui des colombes. Emma, à sa manière, en est une quand, toute jeune fille, dans la chapelle de son couvent, elle ressent quelques émois qui sont à la fois esthético-mystiques, en regardant des images enluminées et rehaussées d'or. Deuxièmement, bon, j'ai des doutes quant à la véracité de l'anecdote qui reprend la blague bien usée dont on se sert quand on veut se débarrasser d'un importun. Va voir là-bas si j'y suis. Pierre-Marc de Biasi a raison de voir dans cette histoire, vraie ou inventée par la famille, la marque de la naïveté, de la crédulité, j'ajouterai pour ma part d'une confiance dans le langage de l'enfant. Lesquelles ne sont nullement des manifestations de la bêtise. Troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Et puis l'Église ne fait-elle pas croire au jeune Flaubert, comme à bien d'autres évidemment, à des phénomènes d'ubiquité beaucoup plus surprenants? Par exemple, Jésus qui est au ciel et dans l'hostie de la communion dominicale. Et donc, alors, pour revenir une dernière fois à elle, la servante dont le grand Larousse nous invite à se gausser n'a pas péché contre la logique. Elle a simplement fait preuve de courte vue, en ne comprenant pas que le maître ne cherche pas à savoir si les allumettes sont bonnes, comme je vous le disais, mais qu'il ne se préoccupe que de savoir, et là ça montre aussi l'étroitesse de son esprit utilitariste, que de savoir si elles sont bonnes à allumer son feu ou sa pipe. Aucune curiosité scientifique, n'est-ce pas, concernant la qualité intrinsèque des allumettes. L'esprit simple, au contraire, n'intègre pas cette finalité restreinte et utilitaire. D'ailleurs, l'esprit simple ignore la fin à atteindre, qui était pourtant contenue, mais de manière implicite dans les prémices. Ceci me conduit à réfuter l'idée communément admise que la bêtise se caractériserait par l'inaptitude au raisonnement logique. C'est au contraire la logique réduite à sa suffisance, au sens de fatuité, vanité, autosatisfaction, ce dont fait preuve Bourret lorsqu'il rit de la candeur de Félicité, et au sens de qui se suffit à soi-même, qui est la meilleure caution de la bêtise. comme l'a très bien compris, et je le disais il y a un instant, Clément Rosset dans Le démon de la tautologie. Et comme l'avait très bien compris et analysé avant Clément Rosset, Roland Barthes dans Les mythologies. Et dans l'essai intitulé Le mythe aujourd'hui, qui sert de postface aux mythologies. Roland Barthes a en effet montré que le principe d'identité, dont la figure de rhétorique est la tautologie, est la caution logique de la bêtise bourgeoise, et en même temps d'ailleurs, est la caution idéologique de sa tranquillité d'esprit. L'exemple donné par Roland Barthes dans les mythologies, c'est Racine et Racine. Évidemment, on comprend le sous-entendu, on aura beau dire, et alors là, évidemment, il pourrait y avoir un flot de paroles, on aura beau dire, mais Racine, c'est Racine. Voyez donc que cette proposition, cette tautologie que stigmatise évidemment Roland Barthes, dont il va nous montrer que c'est le fonctionnement logique justement de l'idéologie bourgeoise, on voit que la tautologie ici dispense d'avoir des idées. Pas besoin d'avoir d'idées sur Racine. Hein. Vous êtes dans un dîner, Racine c'est Racine, bien sûr. Donc la tautologie dispense d'avoir des idées. Mais en même temps, elle va s'enfler et faire de cette licence rhétorique, la tautologie, une sorte de loi morale, d'où son succès. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'en disant Racine et Racine, la paresse d'esprit, qui est justement une des manifestations de la bêtise, la paresse d'esprit est promue au rang de rigueur. Car effectivement, c'est indéniable, Racine et Racine. Mais on voit très bien que c'est une rigueur, si on en reste au plan littéral, mais que c'est une paresse d'esprit qui, du coup, s'habille de cette pseudo-rigueur de la tautologie. D'où une sorte de sécurité idéologique qui vous enveloppe, n'est-ce pas ? Et la bêtise sert évidemment à ça. Dans deux contes cruels, Villiers de l'Isle-Adam, qui est un autre grand pourfendeur de la bêtise, Villiers de l'Isle-Adam donne deux exemples. L'un que l'on trouve dans un conte qui s'appelle « L'affichage céleste », « Les affaires sont les affaires ». Et vous voyez bien, là aussi, comment fonctionne cette tautologie. « Les affaires sont les affaires », c'est indéniable au plan littéral, mais en même temps, ça veut dire bien évidemment que ça cautionne toutes les petites manœuvres plus ou moins honnêtes que, au nom de cet adage, au nom de cette vérité qui sort tout droit, non pas de la cuisse de Jupiter, mais du principe d'identité, eh bien, on peut se livrer à des actes qu'une morale différente réprouverait. Et donc, c'est ce que je disais, la tautologie se transforme en une loi morale qui l'arrange. De même, on trouve cette autre tautologie, un chat est un chat, évidemment reprise à Boileau, mais dans un sens évidemment différent, où l'on voit que dans le deuxième terme de la tautologie, il se gonfle, il s'enfle de toutes sortes de présupposés et d'opinions et d'idéologies. On trouve d'ailleurs cet exemple dans La machine à gloire. Ces exemples montrent en fait comment ce qui est à l'œuvre dans la tautologie, c'est l'idéologie. Et comment le principe d'identité, en fait, le principe d'identité dont la bêtise réclame, est en fait une manière de faire passer de l'idéologie. Mais le plus grave, en fait, parce que sinon on ne comprenait pas pourquoi ça marche. C'est le glissement qui s'opère tout naturellement de la tautologie à l'évidence. La façon dont on va passer de ce procédé verbal, qui consiste à définir le même par le même, à l'argument d'autorité, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Voir d'ailleurs, même plus besoin des deux termes, c'est comme ça. La tautologie, si vous voulez, permet de glisser tout doucement vers l'évidence qui va devenir un argument imparable, c'est comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le dictionnaire des idées reçues ? Au fond, c'est celui d'anciennes tautologies, non énoncées, devenues des évidences, c'est-à-dire des énoncés incontestés et incontestables, dont l'apparente valeur de vérité vient de leur universalisation et de leur naturalisation par une opération de scotomisation de l'histoire, par oubli de leur genèse, par oubli de leur origine. On sait que les mythologies, dans les mythologies, Roland Barthes montre, enfin, pourfend essentiellement l'évidence, en montrant que l'évidence n'est qu'une façon de naturaliser des énoncés, les présenter comme naturels, donc comme allant de soi, par oubli de toute l'histoire qui les a fait naître et qui s'exprime, qui devrait s'exprimer en eux et en même temps donc les relativiser, etc. Alors, c'est là où l'on trouverait Bourret, le fameux Bourret qui montrait à Félicité la carte de Cuba. On retrouverait Bourret qui, fort de ce qu'il pensait de son intelligence, se moque de la simplicité de Félicité. Et c'est là aussi où on retrouverait tous les Homais, ces esprits pragmatiques et raisonneurs qui ne s'en laissent pas compter. Et c'est là où l'on retrouvera aussi tous ces personnages de Flaubert qui se croient par leur supposée intelligence, justement, celle qui sait qu'un chat est un chat, à l'abri de la bêtise, et dont la bêtise est totalement incurable, du fait même de cette croyance en leur intelligence. Félicité, elle est simple, mais elle n'est pas nécessairement bête, parce qu'elle pourrait apprendre ce qu'est une carte. Elle pourrait finir par comprendre que tous les détails du territoire ne s'y trouvent pas. Mais peut-être nourrirait-elle alors quelques doutes à l'endroit de l'utilité des cartes, puisqu'au fond, le seul intérêt qu'elle leur porte est de lui permettre de voir la maison où habite Victor. Mais ça serait un autre problème. Homais, lui, ne reviendra jamais sur des opinions qu'il a faites siennes après raisonnement. Il n'en démordra pas. Et vous savez que les exemples abondent. La bêtise est têtue, la bêtise est inébranlable, parce que la bêtise est forte de ses certitudes, et elle débouche d'ailleurs sur une incuriosité, le contraire même d'ailleurs de Bouvard et de Pécuchet, dont je refuse absolument de dire qu'ils sont bêtes. Musil, j'ai encore un peu de temps ? Oui, j'arrive. Musil, dans la conférence que j'ai déjà mentionnée, distingue dans la bêtise deux espèces. Au fond, dit-il, très différentes. Et je dirais, moi, c'est moi qui le dis, dommage qu'on n'ait qu'un seul mot pour les désigner. Une bêtise toute honnête, toute simple, dont le seul danger est peut-être d'être crédule et naïve. Pour moi, ce serait celle justement de ses félicités, de la servante, dans l'exemple du Larousse. Et une autre qui, assez paradoxalement, peut même être un signe d'intelligence. La première tient plutôt à une faiblesse générale de l'entendement, la seconde à une faiblesse de celui-ci par rapport à un objet particulier. Et c'est de loin la plus dangereuse. La première plébiscite peut-être des princes présidents, élit peut-être des Adolf Hitler, car Musil écrit évidemment au moment où Adolf Hitler est au pouvoir, mais c'est la seconde qui les place en position d'éligibilité. C'est la seconde qui travaille à leur élection. C'est la seconde qui prépare leur avènement. La simplicité développe un imaginaire fondé sur la crédulité. Ces félicités qui, à partir de quelques vagues souvenirs de géographie en estampe, se représentent tantôt Victor, et je cite, « mangé par des sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourant le long d'une plage déserte », ou au contraire, en quasi-monsieur, à cause des cigares, elle imaginait la Havane, un pays où l'on ne fait que fumer, et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac. D'ailleurs, là, nous ne sommes pas loin de la façon dont travaille l'imaginaire d'Emma quand elle se représente l'amour en hamac ou en gondole, hein, et puis là je ne citerai pas, ça serait trop long, vous avez tous en mémoire ces textes. Et il me semble, à partir de ce que je viens de dire, je terminerai sur la bêtise, que Flaubert ne devient cruel envers elle, envers Emma, que lorsque devenue petite bourgeoise pratique, elle veut transformer ses rêves en réalité palpable. C'est-à-dire lorsqu'elle veut avoir une sorte de retour sur investissement, et on retrouverait la liaison bêtise-utilitarisme. Alors, la bêtise. Il faut distinguer, lorsqu'on cherche à définir la bêtise à partir de ses énoncés, entre le contenu propositionnel et la forme de la proposition. Tout le monde le dit. Le contenu pose un problème insoluble de recensement, d'ailleurs ça a dû être un problème insoluble pour Flaubert, un problème insoluble de recensement car les propos et les thèmes dérisoires, ridicules, qui servent d'objet, de sujet à la bêtise, sont inépuisables en nombre comme en variété. La copie de Bouvard et Pécuchet était une œuvre indéfiniment ouverte. L'album de la Marquise ou le dictionnaire des idées reçues. Il faut aussi faire attention au fait que le contenu d'une proposition ne peut, en bonne logique, être déclaré bête. Il ne peut être déclaré que vrai ou faux. Et donc, on ne peut pas juger de la bêtise en fonction du critère erreur versus vérité. Exemple, Italie, but de tous les voyages de noces. La proposition n'est en soi ni bête ni intelligente. Elle est tout simplement fausse. Car il y a à l'époque des voyages de noces dont l'Italie n'est pas la destination. Je pensais à une vie de Maupassant, hein, où les jeunes mariés vont en Corse pour effectuer ce fameux voyage de noces. La seule bêtise de la proposition, ou la bêtise plutôt de la proposition, vient de la généralisation abusive, tous, et du caractère péremptoire qui s'attache à cette généralisation. Enfin, le contenu de la proposition, que l'on juge bête, peut être l'expression d'une vérité d'expérience venue d'un vieux fond de sagesse. Souvenez-vous de ce que Roland Barthes dit de la doxa dans le fragment intitulé « Méduse » et je le cite « Il est vrai qu'il y a dans le discours de la doxa d'anciennes beautés endormies, le souvenir d'une sagesse somptueuse et fraîche autrefois, et c'est bien Athéna, la déité sage, qui se venge en faisant de la doxa une caricature de sagesse. » Fin de citation. Donc, tous ceux qui se sont penchés sur ce problème disent au fond, on ne peut donc approcher de la bêtise que par les figures de rhétorique de la bêtise. Roland Barthes y est peut-être d'autant plus intéressé que, comme je vous le disais, ces figures de rhétorique sont le lieu où se dissimule cette chose honnie, l'idéologie bourgeoise. Pour Roland Barthes, on le sait, la bêtise est avant tout affaire de forme, affaire d'usage du langage, emploi du cliché, du stéréotype, des lieux communs. D'ailleurs, Flaubert n'est pas loin de cette conception, lui qui s'interroge dans une lettre à George Sand, quelle forme faut-il prendre pour exprimer parfois son opinion sur les choses de ce monde sans risquer de passer plus tard pour un imbécile. Cependant, si l'on s'en tient à une définition formelle, si on a éliminé les contenus, impossible à désigner comme étant bête. Si l'on s'en tient donc, et si on essaie de s'approcher de la bêtise par l'idée que la bêtise est forme, si l'on s'en tient à une définition formelle de la bêtise, on ne met en évidence que son aspect passif. Le fameux noyau dur dont parle Roland Barthes, le insécable, etc., ou le pratico-inerte de Jean-Paul Sartre. On retrouverait l'idée que la force, on parle de la force d'inertie de la bêtise, que la bêtise est butée, qu'on ne peut la déloger de ses certitudes, etc. En fait, c'est une erreur. Il ne faut pas se fier au caractère figé, comme gelé, sans sous parole gelée de Rabelais, de ces expressions. L'idéologie dont je ferai à la suite de Roland Barthes et de Jean-Luc Nancy un synonyme de la bêtise circule sous la glace, ces paroles gelées, et avec elle le sens de l'intérêt qu'elle incarne. La force d'inertie de la bêtise ne lui sert qu'à désarmer toute objection. Il est vrai, comme le dit Flaubert, lettre à son oncle, que la bêtise est quelque chose d'inébranlable. Rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Elle est de la nature du granit, dure et résistante. Mais en même temps, la bêtise est rusée. Comme le dit Musil, elle endort la méfiance, elle désarme. Non qu'elle fasse rendre les armes, mais parce qu'elle fausse le jeu normal de leur utilisation. En cela, elle ressemble à un très mauvais joueur de tennis ou de ping-pong ou d'autre chose, qui réussit à faire perdre un champion complètement dérouté par la nullité de son adversaire. On retrouve, nous dit Musil, quelques traces de ce genre de finauderie dans certains rapports de dépendance où les forces sont à tel point inégales que le plus faible essaie de s'en tirer en se faisant passer pour plus bête qu'il n'est. Ainsi, par exemple, dans ce qu'on appelle les ruses de Normand, le commerce des domestiques avec leur maître, etc. Alors j'arrête là la citation, je l'arrête évidemment sur l'évocation de la finasserie du Normand, qui pourrait être un cliché, une idée reçue, et là on pense à une entrée possible dans le dictionnaire des reçus, des idées reçues, Normand tous finaux, et donc qui participerait évidemment d'une forme de bêtise, n'en est pas moins l'expression d'une certaine vérité d'expérience. Expérience évidemment faite par Flaubert, et là, pensez à certains de ses personnages. La bêtise est dangereuse, et je conclurai là-dessus, parce que précisément elle endort la méfiance, pour mieux parvenir à ses fins. Mais là n'est pas le plus grave de ces dangers. La bêtise est active, elle est agissante, et c'est là que réside sa dangerosité. Elle est féconde, et ce en raison directement proportionnelle du nombre de gens qui parlent cette langue, dont la pauvreté lexicale, la rigidité syntaxique, le mode de raisonnement tautologique, le processus de naturalisation du sens dont j'ai parlé, constituent justement l'efficace. Pour comprendre les éclats de Flaubert contre la bêtise, il ne faut pas s'en tenir aux énoncés plutôt risibles du dictionnaire des idées reçues, mais il faut analyser leur reprise en situation par les personnages de ses romans. Et là, tout change. On comprend pourquoi Flaubert se sent menacé par elle. Pas le Flaubert être intelligent, auquel il peut arriver d'être bête, comme à tout un chacun, bien entendu, lorsqu'il se surprend à parler et même à penser comme ceux qui se gargarisent des idées reçues. Non, le Flaubert sujet politique, qui risque d'être entraîné malgré lui dans les turbulences désastreuses de l'action de la bêtise sur le cours des choses. J'en veux pour exemple une idée reçue dont j'avais autrefois analysé la forme romanesque, mais que je voudrais reprendre autrement. Alors, ouvrez avec moi le dictionnaire des idées reçues. Je vous dis, je termine là-dessus, sur cet exemple. À la lettre B, hein, à l'entrée bras, on peut lire « Pour gouverner la France, il faut un bras de fer ». Alors, évidemment, il y a un comique aussi du choix de l'entrée pour ce propos de haute politique, qui est renforcé par le fait que cet article se trouve pris entre braconniers, sont tous des forçats libérés, il faut les accuser de tous les crimes commis dans les campagnes, doivent exciter une colère frénétique, pas de pitié, monsieur, pas de pitié. Cependant, c'est à eux que l'on s'adresse lorsque l'on veut un chien de chasse. Mais vous voyez, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a le développement, mais on peut imaginer que ça se réduirait à un braconnier est un braconnier. Et dans la deuxième évocation du mot braconnier, il y aurait justement le contenu de l'idée reçue. Ça serait condensé. Donc, et breton, tous braves gens, mais entêtés. Dans la fermeté, l'entêtement, évidemment, on pense à Bécassine, à sa simplicité pourtant dévouée, fidèle et bonne. Alors, pour gouverner la France, il faut un bras de fer. L'énoncé est syntaxiquement correct et sémantiquement signifiant, mais d'un point de vue logique, comme d'un point de vue pragmatique, il est totalement dénué de sens, puisqu'il échappe tout à la fois aux critères de vérité, comme à celui, c'est là où il est dénué de sens d'un point de vue pragmatique, d'adéquation à une situation référentielle, puisqu'elle n'est pas indiquée. Pas dans les circonstances actuelles, etc., il faudrait à la France... À cela s'ajoute cette disjonction stylistique d'avec le réel, que sont l'emphase, bien évidemment, et la grandiloquence. Alors, serait-ce cette déconnexion avec toute réalité qui s'assortit d'une énonciation péremptoire et arrogante qui serait le propre de la bêtise selon Flaubert? Serait-ce cette transformation en vérité générale qui escamote le réel? Au fond, à quelle situation historique de la France correspondent ces propos? À quel savoir sur la politique et l'art de gouverner? Qui les profère? Et bête, dit Jean-Paul Sartre, que je suivrai sur ce point, la phrase dont la rigidité mécanique exclut toute relation vivante avec la situation, la vérité. Et Roland Barthes, je reviens sur ce que j'ai dit, ajoute « est bête ce qui est consistant, insécable, indécomposable et donc qui n'appelle aucune réplique, qui est à soi-même son dernier mot, sa conclusion sans appel. » La bêtise, évidemment, est de conclure. Alors, si ça en restait là, si cet énoncé en restait au stade du cliché, le bras de fer appelé au secours de la France ne serait qu'un bras en fer blanc, parce que la formule s'épuise dans le triomphalisme creux du langage. La bêtise ferait-elle donc chou blanc, ou plutôt tirerait-elle ses balles à blanc? Ce serait compter sans la démocratie. Et c'est là où l'empire de la bêtise devient effectivement, comme tu l'as dit, une emprise de la bêtise sur les choses. On la croyait déconnectée, justement si on s'en tient simplement à son aspect formel, on va voir qu'elle est parfaitement emprise. Lors d'un dîner chez les Dambreuse, M. Roch, le tout nouveau héros de la contre-révolution, énonce sentencieusement qu'il voulait, je cite, « pour gouverner la France, un bras de fer ». Mise en situation, le cliché qui, dans le dictionnaire des idées reçues, sonnait le creux, se révèle étonnamment approprié au point de vue de celui qui l'énonce, lequel est un point de vue de propriétaire, qui a eu très chaud. Dès lors, cette bêtise, en qui s'expriment les intérêts égoïstes d'une classe sociale, n'est pas si bête, elle est tout bottement redoutable. Loin de Paris, dans un bled normand, qui répond au nom ridicule de Chavignol, les notables locaux ont eux aussi organisé un dîner de conciliation politique. Là, c'est Fourreau, le maire de la commune, qui déclare avec une suffisance qui pourrait faire croire qu'il est l'auteur de la formule, mais vous le savez aussi bien que moi, le propre de l'idée reçue, c'est que chacun peut la reprendre à son compte et l'énoncer péremptoirement à la première personne. Donc, Fourreau, je ne fais pas de discours, moi. Je ne suis pas un journaliste et je vous soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. Fin de citation. Alors, le lieu commun est comme la langue dont on sait qu'elle ménage une place au sujet. Souvenez-vous, ai-je, qui dis-je? On peut y entrer en son nom propre, on peut se l'approprier comme le fait Fourreau, mais il reste commun en ce que tous les Fourreaux et tous les Rochs de France s'y rencontrent. Ils s'y rencontrent en l'occurrence parce que ce lieu commun parle leur intérêt. Leur bêtise occasionnelle, mais celle-là n'est pas bien dangereuse, est peut-être alors de croire à la singularité et à la profondeur de leur opinion. En fait, l'idée reçue, reprise par Roch, par Fourreau, mise en situation dans le roman, apporte un démenti à ce qu'on dit généralement du lieu commun, que j'envisage ici comme la forme d'expression de la bêtise, à savoir que c'est une parole sans origine. Elle est sans origine, peut-être, à l'état d'énoncé dans un dictionnaire. Le lieu commun y est sans auteur, il y est anonyme. Mais lorsqu'il se retrouve en situation énonciative, il se révèle parfaitement originé. À preuve, si Fourreau et Roch se rencontrent, s'il leur vient spontanément, instinctivement, aux lèvres la même phrase, c'est qu'elle leur parle. Et elle leur parle parce qu'elle parle leur intérêt. Faudrait-il alors abandonner le mot de bêtise, ce que je vous avais invité à faire il y a déjà un moment, et parler alors d'idéologie. La bêtise, c'est l'idéologie. Le lieu commun, donc, apparaît ici comme un instrument de communication sociale, car par sa disjonction avec toute réalité spécifique, chacun peut l'entendre comme il veut. C'est une sorte de koiné. Par exemple encore, je reprends ce même exemple, le dîner à Chavignoles, où s'expriment des intérêts politiques divergents, et où la phrase de Fourreau vient soulager tous les convives qui reprennent en cœur le propos « Tous réclamaient un sauveur ». Moment parfait d'entente et de paix, je cite le texte, « Ils absorbaient des liqueurs et la cendre tombait sur le capiton des meubles. » Consensus. L'efficace de cette parole ne tient pas à sa valeur de vérité, bien fort celui qui saurait ce qu'il faut à la France ou ce qu'elle veut, mais à son apparence d'évidence. Et c'est ainsi que le bras de fer, appelé pour les uns en haine du peuple, pour les autres en haine des bourgeois, pour d'autres encore en haine de la République, pour d'autres en haine de tout le monde, voire en haine d'eux-mêmes, le bras de fer appelé pour être l'exécutant de toutes les passions idéologiques et de toutes les rancœurs personnelles devient un jour l'exécutif de l'histoire. Mise au pouvoir par la bêtise, il n'est que son agent. Car la parole de M. Roch comme celle de Fourreau, tant qu'elle reste dans l'espace privé de la conversation, est un acte de socialité. Mais couché sur le bulletin de vote, c'est un acte politique aux terribles conséquences. Miracle du suffrage universel. Qui gouverne la France? Pas le bras de fer, mais la bêtise qu'il a intronisée en s'appuyant sur la simplicité des simples. Pas la peine de chercher la cause de cette catastrophe politique dans de sombres manipulations ou des fraudes électorales. Bouvard l'a bien compris, il refuse la théorie du complot défendue par Pécuchet, je cite, « Je crois plutôt à la sottise du peuple, pense à tous ceux qui achètent la Revalessière, la pommade du Puitrin, l'eau des châtelaines, etc. » Ces nigauds forment la masse électorale et nous subissons leur volonté. J'abrège la citation, « Ton scepticisme m'épouvante, dit Pécuchet. » Alors, cela nous renvoie à la question de la simplicité et pose évidemment à la simplicité le problème de son consentement benêt et joyeux. Je vous l'ai dit, l'arme de la bêtise est son indifférence à la vérité. Et ça marche. La seule réalité qu'elle reconnaisse, c'est celle de son efficacité. Aussi parvient-elle à plier le réel à sa loi. Et c'est en cela qu'elle est redoutable. La simplicité, elle, n'est dangereuse que parce que sa crédulité l'empêche de déjouer les pièges d'une raison arrogante qui prétend se suffire à elle-même. La bêtise en met toujours plein la vue à la simplicité. La bêtise a toujours le dernier mot. La bêtise est malfaisante. La simplicité, elle, est niaise. C'est ce que montre d'ailleurs Villiers de l'Isle-Adam dans son conte, donc Vox Populi, évidemment qui fait référence à cette idée reçue qui est peut-être la plus redoutable de toutes en régime démocratique, Vox Populi, Vox Dei. Je pense que je n'ai pas le temps de vous le lire et c'est dommage. Je vous dis simplement de quoi il est question. Il est question de plusieurs défilés s'étalent dans le temps sur les Champs-Élysées où l'on voit le peuple crier tantôt « Vive l'empereur, vive la République, vive le maréchal, etc. » Et cela s'étale sur une douzaine d'années. Et pendant ce temps, il y a un pauvre aveugle qui répète constamment la même chose. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle en secouant sa sébille. » Et ce pauvre aveugle, peut-être, justement, c'est ce peuple simple.
Merci beaucoup, c'est bien expliqué. On rappelle aussi que Villiers de l'Isle-Adam est l'auteur de Tribula Bonomède.
Oui.
Et ce personnage... alors je vais me donner la parole deux minutes juste pour intervenir, te remercier de ce bel exposé Et moi, je voudrais revenir sur deux points. D'abord, merci d'avoir remis au centre le dictionnaire des idées reçues et puis la question des idées reçues et de la tautologie, des effets d'évidence qui sont les effets de stéréotypes. Et cette question de la tautologie, tu citais Racine et Racine, l'épigraphe de Barthes, c'est tiré de Bouvard et Pécuchet, le goût c'est le goût, hein. Et alors je voudrais mentionner, hier il y a eu une soutenance de thèse à Paris 8 de Cécile Gauthier sur le mot slave dans les dictionnaires et dans les romans français et allemands 1890-1930. Et justement, elle montre très bien ce glissement du dénominatif au qualificatif. Et en fait, il y a le même discours qui se dit sur le slave qu'à la même époque sur le juif. Et ce qui est intéressant, c'est la portée idéologique dans l'histoire, comme tu l'as montré pour Flaubert, pour le Second Empire, mais dans l'histoire, finalement, et dans le discours fin de siècle, et qui précède juste la montée du nazisme. Et toi, tu citais Mouzil, 1937, là, ça s'arrête aux années 30, mais c'est très intéressant de voir aussi le discours comparé dans le roman allemand et dans le roman français de cette époque. Donc, c'est Cécile Gauthier, donc c'est une thèse soutenue à Paris 8 qu'on trouvera voilà, là-bas. Et alors, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est, je pense que la genèse de la bêtise au XVIIe, XVIIIe siècle est compliquée. Moi, j'étais un peu rapide, mais il faut distinguer quand même la question de la sottise et de la bêtise. Tu l'as fait avec raison, mais au XVIIIe siècle, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement le sot. La bêtise, c'est si au XIXe, c'est vraiment la bêtise sociale, historique, idéologique. C'est la religion pour le combat des Lumières, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la sottise, c'est la croyance, ce sont les fausses croyances. Alors évidemment, Flaubert est au-delà de l'erreur et de la fausseté, mais il y a quand même cette idée. Et puis, deuxièmement, tu parlais de la bêtise des saints, à côté du valet qui est du côté du vitz de l'esprit qui est Figaro, il y a le Gilles et la figure du Gilles par Watteau qui nous interroge, parce que le Gilles, c'est pas seulement le sot, c'est aussi cette bêtise qui va pouvoir être celle de félicité dans un cœur simple. Donc il me semble que là, il y a des figures de la sottise qui seraient à distinguer, des figures de la bêtise. Alors ce n'est pas la bêtise lourde de Homais, qui lui incarne, tu as tout à fait raison de dire que Homais, c'est la bêtise de la raison, mais il y a une autre forme de bêtise qui est peut-être plurielle au XVIIIe et qu'il faut distinguer de celle de Flaubert, mais qui est quand même...
Alors d'abord, je te répondrai plusieurs choses. Moi, au contraire, je distingue, tu dis la bêtise des simples. Non, je distingue absolument la simplicité de la bêtise. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs appelé ça éloge de la simplicité, car justement, il y a dans cette simplicité quelque chose dont on peut absolument faire l'éloge, et qui justement peut désarmer d'une certaine manière ce que j'entends par bêtise. Alors, par rapport au 18e, la question du 18e, quand on pourfend ce que l'on pourfend dans la crédulité, ce sont les erreurs auxquelles les gens crédules sont amenés à croire. Et c'est pour ça qu'on s'emploie à montrer que la Bible ne dit qu'un ramassis de contre-vérités, car on sait bien que la création du monde remonte à bien plus d'années que cela, etc. Et on va pouvoir faire la liste, évidemment, des erreurs. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, enfin, de l'opposition entre erreur et vérité. Il s'agit de redresser les erreurs, un redressement des erreurs, et là où il y avait de l'obscurité, il faut apporter la lumière. Et sur quoi s'appuie-t-on pour ce faire? Sur une arme d'ailleurs extrêmement efficace et dont je ne fais pas à ce moment-là du tout le procès, qui est évidemment la raison. Alors ça, c'est un point. Le problème commence lorsque, dans un énoncé comme « un juif est un juif », qui est une proposition qui est parfaitement logique, sous sa forme tautologique. Juif est un juif. Bon, très bien. Qui est donc parfaitement logique et qui correspond à une tautologique, c'est qu'il est bien évident que la deuxième partie de la proposition se gonfle de toute une idéologie qui fait passer l'idée. Mais le tour de passe-passe, c'est de faire passer l'idéologie contenue dans le deuxième emploi du mot juif dans cette tautologie, de faire passer donc toute l'idéologie, tous les préjugés, tout, etc., de les faire passer sous couvert d'un usage parfaitement logique et parfaitement rationnel, c'est-à-dire plus que descriptif, c'est-à-dire de faire passer l'idéologie, de se servir d'une logique et d'une rationalité pour faire passer l'idéologie. C'est en ce sens qu'elle devient effectivement redoutable. Et c'est très différent de la façon dont au XVIIIe siècle, surtout dans sa seconde moitié, on va utiliser la même raison. Elle n'est pas utilisée de cette manière, elle est utilisée de manière argumentative, etc. Et encore une fois, le simple, pour moi, j'en fais l'éloge, je considère qu'au contraire...
Dans la perspective, il y a une bêtise pour Flaubert, qui est la bêtise animale, qui n'est pas du tout une bêtise...
J'appelle ça la simplicité.
Alors, appelle la simplicité, mais là, on est d'accord sur ce point.
Elle est simple.
Mais je pense que... Attends une seconde, je vais peut-être finir. Donc, je pense qu'en plus, il faut, pour le 18e, distinguer raison et intelligence. C'est en fait des instances différentes. Mais on va s'arrêter là, et je passe la parole à la salle et à Pierre-Marc de Biasi. Ah non, c'était... Alors, bon, à qui veut prendre la parole ? Barbara, peut-être.
Alors, si j'ai une courte réponse, une expérience, justement, que j'ai toutes les simplicités, j'ai aussi que j'ai aperçu une différence qui me paraît tout à fait... C'est quoi ? Ah, convaincante ? Ça va mieux, là ?
Non, c'est pour enregistrer, là.
C'est pour enregistrer. Ah, excuse-moi, bon. Alors, et pourquoi Musil ne définit pas ce que c'est que la bêtise, justement ? Parce que la définition, c'est déjà une façon de bêtise. Pourquoi la bêtise, comme tu l'as montré, enfin, tel que je l'ai compris au moins, c'est que c'est surtout une... C'est, la question n'est pas le constatif vers le constatif. C'est-à-dire, c'est pas la question si c'est vrai ou faux. Hein, ça n'a aucune importance. Il faut que ça marche, que ce soit performatif, voilà. Et la bêtise, c'est donc une speech act qui est intéressée et qui, parce qu'il est intéressé, est donc idéologique et comme le montre Flaubert, brutal. Donc c'est quelqu'un, c'est un speech act qui détruit l'autre, qui dans cette agressivité est d'une certaine façon bestiale. Hein, c'est pour ça qu'on dit bêtise, bestiale. Et à l'inverse, la simplicité, on peut donc dire, la question ce n'est pas si c'est un acte rationnel, c'est un acte qui manque d'amour surtout. Tandis que la simplicité, c'est un acte qui, c'est une attitude d'esprit qui subit, hein, et qui est profondément désintéressé et qui pour cela aussi est d'une certaine façon bestiale, mais bestiale dans un tout autre sens, enfin dans un sens qui justement ne sait pas s'articuler. Et je trouve que tu l'as démontré d'une façon très convaincante qui m'a... Très beau.
D'accord avec toi. Il y a dans la bêtise, dans cette bêtise, encore une fois, telle qu'elle est entendue à cette époque-là, dans cette bêtise qui fait horreur, l'idée que ce qu'elle cache, c'est toujours une forme d'intéressement et d'utilitarisme. Alors que dans la simplicité, absolument pas. Et dans cette simplicité, il y a d'ailleurs une forme de bonté. Il y a même quelque chose qui s'ouvre aux choses, qui s'ouvre au monde. Elle confine presque parfois au mysticisme. Hein, elle aurait comme ça cette espèce de... Il y avait Pierre-Marc.
Pierre-Marc,
d'abord.
Oui. J'aime bien l'idée de... Mais, ça trop simple, ça allait tout seul comme ça, sans problème. Est-ce que dans l'idée de simplicité, sans le dire, c'est-à-dire par un procédé qui ressemble beaucoup à ce côté plein d'ombre de la bêtise que tu nous as décrit, tu ne nous resserres pas tout le côté religieux, hein ? Laissez venir à moi les enfants et les simples d'esprit, c'est Jésus qui parle comme ça. Est-ce que cette simplicité toute pleine de mysticisme et aussi de générosité ne porte pas le label de cette imposture maximale qu'est la transcendance? Bon, deuxième question, tu as dit, c'était formidable, sur la tautologie, racine c'est racine. Et alors justement, il y a deux jours à la radio, j'entendais sur France Culture un type qui disait, moi je suis en train de monter Phèdre. Bon, ouais, enfin bon, racine, pas tellement intéressant, hein, c'est racine, on s'en fout. Non mais le problème c'est que racine c'est, puis j'ai plein de l'alexandrin, tu vois, des trucs... en fait, non, hein, l'alexandrin, c'est un vieux truc, d'accord, mais c'est slam, tu vois. Racine, c'est intéressant parce que c'est slam. Bon, tu vois. Donc, tu vois. Donc, racine, c'est pas racine. Si c'est... C'est-à-dire qu'il y a... Il y a la bêtise, elle développe le contraire. Hein. C'est-à-dire à cet vieil ordre des choses où, effectivement, dans le dîner bourgeois... Sortant d'une présentation de Phèdre, on dit quand même, racine, c'est racine. Bon. Et là, maintenant, il faut dire, non, racine, on s'en fout, mais c'est slam. Hein. Et ça va apporter la même idée, le même fonctionnement, mais c'est pas toujours tautologique. Quoi.
Alors, attends, là, c'est bon sur les deux. Effectivement, cette simplicité. Cette simplicité qui est une forme au fond d'ouverture par opposition à la tautologie qui est une fermeture complète sur des certitudes et qui peut confiner effectivement une forme de mysticisme. C'est pour ça que je disais à la fin il y a la félicité qui retrouve le Saint-Esprit. Mais et d'ailleurs dans certains passages de Madame Bovary au début il y a quelque chose qui confine comme ça une espèce d'élan mystique, mais cet élan mystique ne doit pas être nécessairement rabattu sur une religion révélée. Ça peut être une forme comme ça d'ouverture finalement au monde. Ça peut être aussi une forme d'empathie qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas se dire, mais une sorte de, tu vois, à la fois d'élan, oui, d'empathie, une espèce de aussi de, dans une sorte de fascination aussi, d'admiration pour le réel, dont on sait très bien qu'on n'a pas véritablement prise sur lui. Donc je ne le rebattrai pas nécessairement sur du religieux. En plus, ce que je voulais montrer, c'est que cette simplicité, comme elle ne s'arc-boute pas sur des certitudes, c'est-à-dire avec des mots conclusifs, et qu'elle, justement, n'est pas dans l'utilisation de la tautologie, cette simplicité peut aussi s'ouvrir à quelque chose qui est de l'ordre du savoir et de la réflexion critique. Et Bouvard et Pécuchet, à mon sens, en seraient les meilleurs exemples. Alors maintenant, ton slameur, je ne dirais pas qu'il est bête. Pour moi, celui qui est bête, il est bête. Non, il est inculte. Il entrerait. Hein? Oui, non, mais bien sûr. Non, mais aussi là-dedans, il y a de l'opportunisme parce que si je joue Phèdre, surtout dans les quartiers, je vais emmerder tout le monde. Donc il faut. Donc il y a de l'opportunisme. Là, on retrouverait de la roublardise qui entre dans la composition de la bêtise, cette espèce de roublardise qui est effectivement l'opportunisme. Non, c'est différent du racine, c'est racine. Comme tu disais, et tu l'as très bien exprimé, c'est tu sors de Phèdre en disant, oh, tout de même, la racine,
ses racines. Mais quand tu dis cela, c'est une forme de totale paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à en dire. C'est-à-dire qu'ensuite, si je te tends le micro et que si je dis « Ah, racine, ses racines », oui, bon, alors, non, on a tout dit. On a tout dit. Et ça veut dire, quoi, vous savez pas, racine. Bon. Donc, la bêtise serait plutôt dans cette forme de paresse, tu vois, de paresse intellectuelle qu'est la tautologie. Paresse intellectuelle dans ce cas-là, mais paresse intellectuelle qui est aussi parfaitement redoutable parce qu'elle est manipulatrice. Hein. Tandis que l'autre, moi j'y verrais l'expression à la fois, je te dis, d'un opportunisme, d'un air du temps contre lequel vitupère Fine Kielkraut Fine Kielkraut est allié, enfin bon, tu vois, c'est plutôt ça. Au contraire, ça renouvelle l'expression racine. Racine, c'est slam. Bon, c'est une autre vision de racine, parce que racine, c'est racine. Là, tu es dans le... Mais moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, ce qui m'a frappé, ça me permet de développer quelque chose que j'ai peut-être pas bien fait entendre. C'est qu'il m'est apparu que, bien que les idées reçues ne se présentent pas formellement sous la forme d'une tautologie, elles sont l'expression d'une possible tautologie. Une fois que tu as dit ce qu'étaient les braconniers... Hein, et on sait ce qui est entre nous, hein, parce que les idées reçues, c'est aussi ce qui va sur quoi va établir un consensus entre nous. Hein. Braconniers sont tous, etc., des brigands, des machins, etc. On le sait. Donc on n'a même plus besoin de le dire, un braconnier. Ah oui, mon pauvre monsieur, c'est un braconnier. Non, c'est comme ça que ça fonctionne.
La résidence aujourd'hui, il y a certaines entrées qui continuent à nous faire écouler de rire et d'autres avec lesquelles on a moins de contact parce que c'est plus dans le contexte. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que il y a une durabilité aussi de la bêtise. Et donc, il y a un jeu fort pour comprendre les relations entre le cycle très court de la mode, par exemple, qui est porteuse. Hein, de bêtises, infiniment. Là, le slam, c'est ça. Le type, il est dans la mode. Ouais, tu dis, c'est un opportuniste, mais il est assez bête pour penser que la seule chose qui pourrait racheter racine, c'est d'ensembler à du slam. Bon, d'accord. Ou de vouloir le faire croire. Mais il y a aussi, comment dire, dans la durée et dans le caractère, tu disais, gelé de la proposition tautologique bête, du cycle long qui peut se rapporter à l'inverse de la bêtise. Par exemple, quand je dis racine, c'est racine, je le dis aujourd'hui en 2009 parce que je viens d'être complètement persuadé par une mise en scène qui me rend le texte de Racine dans toute sa beauté, et je me dis qu'en le disant, je pourrais l'avoir dit en 1809 ou en 1709, tu vois, et avec la même conviction, qui est peut-être une bêtise, mais qui a aussi cette tradition, pérennité. Cette pérennité et cette vérité, d'une certaine façon, qui est celle de la langue.
Oui, sauf que si tu veux, c'est vrai qu'il y a cette pérennité, parce que, comme contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, Racine n'est pas passé avec le café. Tu te souviens, Racine passera comme le café. Ça montre qu'il faut se méfier des jugements portés sur l'avenir. On croyait à ce moment-là qu'en Corneille. Que dans le Grand Corneille. Il y a la pérennité de Racine. Mais quand tu dis racine, c'est racine, c'est pour ça que j'insiste sur la paresse. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de réfléchir davantage à ce qu'est pour toi, pour d'autres, dans l'histoire, ou etc., racine. Hein, tu as la chose est close, enfermée sur elle-même. Et à partir de ce moment-là, c'est une opinion qui est inébranlable. Tandis que, à l'inverse, moi j'aime bien la servante qui va essayer toutes les allumettes, parce que au fond, il y a la volonté, l'idée qu'il va falloir tester, expérimenter. Tu vois, il y a quelque chose dans cette naïveté qui peut nous apparaître comme stupide, mais c'est pas la même chose que cette bêtise arrogante. Il n'y a aucune espèce d'arrogance là-dedans. Et puis en même temps, bon. Et je crois que c'est très très différent. Et il me semble, alors je peux me tromper, qu'il y aurait chez Flaubert une plus grande tendresse à l'égard de cela que l'on retrouve dans certains passages du Saint-Antoine, de la tentation, tu vois, plus de tendresse à l'égard de ça, de ce comportement, enfin de cette attitude-là, que juste, et au contraire de la haine à l'égard alors de ce fonctionnement de la bêtise dont nous parlions.
Monsieur Zenskin, vous voulez prendre la parole.
Merci. Ma remarque irait dans le même sens que celle de Pierre Marc de Biasi. Il s'agit toujours d'approfondir la position entre la bêtise et la simplicité. Historiquement, ils ont un statut très différent, parce que si la bêtise, vous l'avez bien montré, est un phénomène moderne qui apparaît au sens de, aussi avec le siècle des foules, la simplicité, elle, est une constante. Ce qui existe et qui est pris en charge par la culture dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, dès leur début, dans le folklore, dans la littérature médiévale, chez les grands écrivains de la Renaissance, comme Rabelais, ou plus tard en Allemagne, Grimmelshaus, etc. Alors, il apparaît que Flaubert, pour revenir à lui, pour combattre la bêtise historique et contemporaine à lui, semble mobiliser une ressource éternelle de la culture, qui est la simplicité sage. Et dans cette configuration, on voit qu'une place structurelle prend cette simplicité dans son œuvre. Il n'y a pas de figure de raison dans l'œuvre de Flaubert. Et s'il y a des raisonneurs, ils sont bêtes.
Absolument.
Il n'y a pas même de parole de raison. Il n'y a pas de conscience critique. Alors, c'est la simplicité qui joue le rôle de la raison.
Absolument.
Voilà.
D'autres interventions?
Mary.
J'ai bien apprécié cette exploration entre la simplicité et la bêtise, bien sûr, mais je me demande s'il faut poser la question, les fausses croyances existent-elles?
C'est-à-dire?
Alors, vous avez bien exploré les croyances arrogantes, etc., mais surtout, en ce qui concerne Félicité, elle a sa croyance à elle. Mais Bourré, il est fixé sur des croyances rationalistes, etc. Alors, je me demande si Flaubert pose la question, les fausses croyances existent-elles ?
La question de la croyance est une question qui ne peut pas être pensée par rapport au paradigme erreur-vérité. Parce que la croyance est un mode d'adhésion à un certain nombre d'idées ou de contenus, etc. Et ce mode d'adhésion est totalement étranger à la question de l'erreur ou de la vérité. Vous tenez ces contenus pour vrai, mais le mode d'adhésion, qui est celui de la croyance, est totalement étranger aux procédures de vérification qui sont celles, justement, du paradigme erreur-vérité. Si il y a ce paradigme, alors vous n'êtes plus dans la croyance, vous êtes dans le savoir. Vous êtes dans le savoir. Une chose est vraie ou une chose est fausse. Vous êtes dans le savoir. Donc, la question de savoir si il y a de fausses croyances me paraît ne peut pas être posé. Vous, par exemple, je vous donne un exemple. Je ne crois pas, si je parlais, puisque je parlais de la nausée et justement de cette façon dont les bourgeois se gonfle et se rassure d'ailleurs, parce qu'en même temps la bêtise a aussi pour objet et pour but de rassurer. Disent bon, tous les corps plongés dans le vide tombent à la même vitesse. Bon, ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je le sais. Hein, je le sais, c'est de l'ordre du savoir. Donc, un physicien pourra peut-être le contester, on apprendra peut-être, ça c'est un autre problème, et ça concernerait l'histoire des erreurs scientifiques. Mais ce qui est de l'ordre de la croyance échappe aux critères de vérité ou aux critères d'erreur. Si vous croyez, ben vous croyez. Je me souviens, il y a... tellement longtemps que je n'ose pas dire, d'ailleurs je ne suis pas sûre de me souvenir combien d'années, je me trouve aux États-Unis et un des grands philosophes analytiques, Kripke, faisait une conférence. Alors, il commençait par l'énoncé de base, parce que la philosophie analytique, toujours des énoncés qui sont d'une platitude absolument désarmante. Je crois au Père Noël. Alors, je crois au Père Noël. Bon, alors, il dit, cet énoncé d'un point de vue strictement analytique, est un énoncé qui est évidemment parfaitement bien formé. Mais, évidemment, il n'est ni vrai, ni faux. Si vous croyez aux personnes, il échappe, si vous voulez, à toute possibilité de vérification par le vrai ou le faux. Tout ce que je peux en dire, c'est qu'en tant qu'énoncé, il sera bien formé. Bien. Si vous croyez au Père Noël, eh bien, je ne peux pas, cet énoncé ne permet pas d'induire quoi que ce soit quant à l'existence ou la non-existence du Père Noël. Donc je crois que la croyance est tout à fait d'une autre nature. Alors que la simplicité s'ouvre davantage à la croyance, soit plus réceptive à la croyance et moins au savoir, c'est possible, mais ça n'est pas nécessaire. Je veux dire par là que on peut, et l'histoire de Bouvard et Pécuchet le montre, on peut la conduire sur le chemin justement du savoir. Du savoir, c'est-à-dire de ce qui peut être démontré, éprouvé en vérité.
Moi, j'ajouterais que justement dans Bouvard et Pécuchet, il y a la question de la croyance qui est vraiment posée, en particulier lorsque Bouvard et Pécuchet s'arrêtent devant Marcel en adoration, et puis c'était un peu... Jacques Neff avait parlé de cela autour de voir la croyance. Et puis il y a la question des fausses sciences, hein, qui sont magnétisme, c'est autre chose. C'est aussi des croyances qu'on pourrait dire obscurantistes, mais qui sont présentées de façon... problématisées parce que elles sont ridiculisées. En même temps, le magnétisme marche, donc c'est pas validé par la narration, mais c'est on sait pas pourquoi, mais ça marche. Alors c'est décalé avec la question de la fausse croyance.
Oui, bien sûr. Sauf que c'est très difficile parce que tout ce problème du magnétisme, des tables tournantes, du spiritisme, etc., participe, alors là on entre dans autre chose, participe à la fin du 19e siècle d'un intérêt pour des phénomènes parapsychologiques qui ont été aussi induits par le fait que, puisque par exemple dans les phénomènes dits hystériques, on peut très bien observer des symptômes somatiques réels, et que à la mort de l'hystérique, lorsque on procède à une dissection, on s'aperçoit qu'en réalité aucun organe n'est malade, et donc il y a une sorte de disjonction entre le symptôme et la cause. De même, l'électricité qui peut apparaître, etc. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi pas d'autres choses ? Alors ça nous paraît totalement absurde, mais pourquoi pas d'autres manifestations ? Et puis on sait très bien que certaines manifestations de l'ordre de la parapsychologie peuvent être reprises plus tard par la science et se révéler pour certaines d'entre elles relativement fondées, pas comme on le croyait, mais relativement fondées, etc., etc. Par exemple, pendant la guerre froide, les Russes se penchaient beaucoup, travaillaient beaucoup sur les phénomènes de transmission de pensée, parce que, avant l'Internet et tout cela, et d'ailleurs je suis pas sûre que ça marche, mais leur vrai problème, c'était de savoir comment communiquer avec les sous-marins lorsqu'ils se trouvaient en plongée sous la calotte glaciaire. Bon, où les ondes ne passaient pas. Donc, bon, et ils reprenaient des choses, et ils ont fait des expériences de l'ordre, tout à fait scientifique, par rapport à des phénomènes qui nous paraissent évidemment totalement aberrants, ou de l'ordre d'une parapsychologie délirante, dont les manifestations étaient fréquentes à la fin du 19e.
Bon, une dernière question. Elisheva Rosol.
Extrêmement séduite par cette lection qui plaçait au centre l'éloge de la simplicité, parce qu'il me semble que ça permet de penser autrement toute la question de la bêtise et de la relancer, qu'il y a là, de ce côté-là, une recherche proprement flaubertienne. Ce que je voulais demander, en allant dans ton sens, en fait, c'est est-ce que dans cette valorisation, je pense que c'est une revalorisation, c'est pas l'antique figure de la simplicité qui effectivement a une très longue histoire, mais qui ne peut plus avoir la même valeur dans le contexte de la bêtise plus ou moins triomphante. Alors, est-ce que cette revalorisation de la simplicité, est-ce que cette fonction critique problématique, pas nécessairement évidente, parce qu'elle nécessite toute une construction, qui lui est assignée, est-ce qu'elle n'aurait pas quelque chose d'essentiel à voir avec la fiction, avec un projet critique qui s'exprime à travers la fiction? Est-ce qu'une telle figure n'est pas, de ce point de vue-là, lié à un imaginaire romanesque, c'est-à-dire en gros c'est un peu la question, parce que les exemples que tu as donnés sont des exemples fictionnels, tu as choisi des anecdotes que tu commentais, ça me paraît significatif.
Que je m'amusais à penser que finalement, lorsque, dans la petite anecdote, va voir là-bas qui suit, en réalité, ce qui s'exprime là, c'est aussi la possibilité d'accès à un mode d'appréhension du réel qui est de l'ordre du poétique, qui est de l'ordre du rêveur, qui est de l'ordre de l'imaginatif, tu vois, qui est quelque chose d'autre. Et donc, j'irai tout à fait dans ce sens-là. Ça permet cela. Et d'ailleurs, elle aussi, cette félicité, elle va, quand elle imagine Victor, elle accède à quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, finalement. Quand elle le voit parmi les nègres fumant son cigare, etc., c'est presque un début d'un mauvais roman aux yeux de Flaubert, exotico, machin. Mais tu vois, et je serais assez d'accord là-dessus.
On va peut-être terminer sur ces propos. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 12 décembre, pour une table ronde autour de la question des idées reçues. Merci, à bientôt.